I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Soyez les bienvenus dans l'édition de la nuit. Je suis très heureux de vous retrouver en ce début de semaine. Voici les titres de votre journal. Une enquête pour tentative d'homicide volontaire a été ouverte après la blessure par balle de Kenji Girac. Son opération s'est bien passée et il est désormais sorti d'affaire, ont indiqué ses proches ce lundi soir. La nuit dernière, Kenji Girac a été blessé par balle au thorax dans des circonstances qui restent encore très floues. Nous ferons le point avec nos envoyés spéciaux à Bordeaux dans un instant. Gabriel Attal en déplacement dans un établissement scolaire à Nice. Le Premier ministre a inauguré un internat pour les élèves en décrochage scolaire. 20 jeunes âgés de 13 à 16 ans vont donc vivre cette expérience inédite pour une durée de 12 jours. Le but est d'éviter à ces adolescents de sombrer dans la délinquance. Nous avons suivi ce déplacement du Premier ministre, vous le verrez. Nouvelle interpellation dans l'enquête sur la mort de Philippe Kopmann à Grande-Synthe dans le Nord. Un mineur de 15 ans a été placé en garde à vue ce lundi. Il s'agit d'un mineur violemment agressé le week-end dernier. Et face à ce déferlement de violence à Grande-Synthe, la sécurité a été renforcée sur place. Notre reportage dans ce journal. Et puis le procès en appel de l'attentat de Nice s'est ouvert ce lundi devant la cour d'assises spéciale de Paris. En première instance, Mohamed Graieb et Chokri Chafroud avaient été condamnés à 18 ans de réclusion criminelle. Il s'agit de deux proches de l'auteur de l'attentat au camion Bélier qui avait fait 86 morts. C'était le 14 juillet 2016. C'est Noémie Schulz qui a suivi cette première journée d'audience pour CNews. Une enquête pour tentative d'homicide volontaire a donc été ouverte après la blessure par balle du chanteur Kenji Girac. Son opération s'est bien passée. Il est désormais sorti d'affaire. Des informations communiquées par les proches du chanteur ce lundi soir. La nuit dernière, Kenji Girac a donc été blessé par balle au thorax dans des circonstances qui restent très floues pour le moment. Aucune hypothèse n'est donc écartée dans cette enquête. Toutes les dernières informations, c'est avec nos envoyés spéciaux à Bordeaux, Augustin Donadio et Florian Pau.
L'enquête avance, à commencer par les auditions des proches de Kenji Girac et tout particulièrement sa compagne qui était présente au moment du drame. Elle a été entendue par les enquêteurs pour tenter d'expliquer les circonstances de ce drame, le déroulé des faits dans la nuit de dimanche à lundi. Le parquet de Mont-de-Marsan précise dans son communiqué que l'audition de Kenji Girac sera effectuée dès que son état de santé le permettra. Et pour cause, l'artiste de 27 ans a été opéré ce lundi puisque la balle qui l'a traversée a abîmé son diaphragme et ressort dans son dos et est passé à seulement 2 mm de sa colonne vertébrale. C'est ce que nous ont dit ses proches, des proches qui étaient rassurés à leur sortie de l'hôpital, nous disant que l'opération s'était bien passée et que Kenji Girac était sorti d'affaire. D'ailleurs, une jeune patiente nous a dit de l'avoir croisé furtivement dans le couloir. Il était pleinement conscient et en capacité de lui adresser quelques mots. Les gendarmes, eux, continuent leurs investigations. Ils ont retrouvé une arme dans un buisson sur l'aire d'accueil des gens du voyage. Ils vont tenter de savoir si cette arme est bien celle qui a blessé Kenji Girac. En tout état de cause, ce lundi soir, le parquet de Mont-de-Marsan a ouvert une enquête pour tentative d'homicide volontaire.
Lutter contre la délinquance et la violence des mineurs, c'est l'un des objectifs principaux du gouvernement ces dernières semaines. Ce lundi, Gabriel Attal s'est donc rendu à Nice pour inaugurer un internat expérimental pour les élèves décrocheurs. Et selon le Premier ministre, ce type d'établissement pourrait permettre aux jeunes d'éviter de sombrer dans la délinquance. On voit tout ça avec Maxime Lavandier, Thomas Bonnet, Sacha Robin.
Ce matin, c'est distribution d'uniformes pour Gabriel Attal. Ces 20 jeunes de 13 à 16 ans en situation de décrochage scolaire vont expérimenter l'internat éducatif mise en place dans ce lycée pendant les vacances scolaires.
Merci. Tu as quitté le droit chemin pour toi ?
Non, je ne l'ai pas quitté, mais je dérive, j'ai envie de dire.
Tu dérives ?
Ouais.
Bah c'est bien déjà que tu le reconnaisses. Ouais. Et c'est quoi par exemple ? Ça veut dire quoi de dériver ?
Je ne rentre pas à l'heure, je sors quand je veux, je ne me réveille pas.
Des dérives ou de mauvaises habitudes prises par ces élèves que les parents souhaitent gommer.
Ça intéressait autre chose que le téléphone.
Est-ce que vous sentiez que vous aviez de plus en plus de mal peut-être à...
Ah, oui, ouais. Tout à fait.
Beaucoup sur l'écran ?
Ouais, beaucoup
sur le téléphone ?
Sur le téléphone.
Et la réponse du Premier ministre ne va pas lui plaire.
Bah, c'est bien, ici en plus il y aura une petite cure sans téléphone. Tu vas voir qu'on peut faire plein de choses.
Pour Gabriel Attal, l'internat est un rempart contre la délinquance.
Il y a un problème de violence chez les jeunes. On voit une violence de plus en plus tôt, de plus en plus juvénile et manifestement, dans un certain nombre de cas, de plus en plus débridée. Je pense que l'internat, c'est une très bonne solution. Ça permet de couper un jeune de ses mauvaises fréquentations. Ça permet de redonner un cadre quand à la maison, c'est difficile d'en donner parce qu'il y a d'autres frères et sœurs, etc.
Un séjour totalement gratuit pour les familles qui durera 12 jours et que le gouvernement souhaite étendre à d'autres établissements pendant les vacances scolaires.
Les professeurs de Seine-Saint-Denis étaient en grève ce lundi, une journée de reprise pourtant après les vacances de Pâques. Et vous le voyez à l'antenne, ils se sont mobilisés place du Trocadéro. Ils réclament un plan d'urgence pour l'éducation dans le département. Certains élus de la République se sont d'ailleurs joints au mouvement. C'est le cas du député La France Insoumise, Éric Coquerel. Je vous propose d'écouter ces quelques témoignages qui ont été recueillis sur place.
Le plus jeune, le plus pauvre de la France hexagonale. Et que nos élèves n'ont pas droit à la même chose que sur l'ensemble de la France.
Comment font des élèves de seconde pour prendre une spécialité scientifique quand ils n'ont pas eu cours pendant six mois dans cette discipline-là en seconde ? C'est impossible. On est en train, tout simplement, de sacrifier une partie du territoire français.
Il peut y avoir des classes qui, pendant des mois, n'ont pas d'enseignants dans certaines matières et ça met vraiment en difficulté la réussite des élèves.
Parce que la réalité de la Seine-Saint-Denis, c'est quoi ? Ce sont des établissements dont les plafonds s'effondrent, où il y a des infiltrations, des écoles qui sont infestées nuisibles. C'est aussi 60% des établissements au début de l'année qui affichent au moins un enseignant, une enseignante qui n'est pas remplacée.
Et pour faire face à la délinquance chez les adolescents, le maire de Béziers, Robert Ménard, a pris un arrêté qui instaure un couvre-feu pour les mineurs de moins de 13 ans dans sa commune. Il est d'ailleurs entré en vigueur ce lundi soir à 23h très exactement, en 2014 déjà, peu après son élection à la tête de la ville. Robert Ménard avait pris un arrêté similaire qui n'avait pas été validé par le Conseil d'État. Cette mesure de couvre-feu pour les mineurs est entrée en vigueur ce lundi à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Toutes les personnes de moins de 18 ans ne pourront plus sortir entre 20h et 5h du matin pendant au moins 2 mois. L'objectif est donc de lutter contre l'insécurité et la violence dans les rues de la capitale. On va écouter Xavier Lefort, qui est préfet de Guadeloupe.
Un couvre-feu qui commence ce soir à 20h, qui concerne l'ensemble des mineurs, attention, mineurs non accompagnés, entre 20h et 5h du matin. Les bornes horaires, effectivement, sont parfaitement justifiées parce qu'on constate effectivement que 40%, enfin, c'est-à-dire près de la moitié des faits de délinquance commis par les mineurs le sont entre 20h et 22h. Le jeune qui sera interpellé ou à qui sera reconnu dans la rue par les forces de police entre 20h et 5h sera ou ramené chez lui s'il est à quelques mètres de son domicile ou ramené au commissariat de police où là on appellera ses parents pour qu'ils viennent le chercher.
Dans le reste de l'actualité cette nuit, nouvelle interpellation dans l'enquête sur la mort de Philippe Kopmann à Grande-Synthe dans le Nord. Un mineur de 15 ans a été placé en garde à vue ce lundi. Il s'agit du cousin de l'un des deux individus qui a été mis en examen dans cette enquête. Cet adolescent de 15 ans avait été violemment agressé ce week-end dans cette même commune. Et face à ce déferlement de violence à Grande-Synthe, la sécurité a été renforcée sur place. Sarah Fenzari.
Retournement de situation à Grande-Synthe. Le mineur agressé ce week-end, cousin de l'un des interpellés mis en cause dans le meurtre de Philippe, a lui aussi été interpellé, puis placé en garde à vue. Il est aujourd'hui dans cette affaire, un autre mis en cause. Pour éviter des scènes de chaos, le préfet du Nord a demandé à la police nationale de renforcer le dispositif de sécurité dans la ville.
Peur, oui, mais bon, après, faut continuer à avancer, quoi.
J'ai vu, c'est Grande-Synthe, c'est une très belle ville, c'est très beau. Mais Grande-Synthe, on a peur.
Non, j'ai pas peur. Et puis dans la ville, moi, je n'ai rien remarqué. Ça paraît relativement calme. On en parle, mais il n'y a pas une psychose qui s'installe.
Une psychose contre laquelle le maire a mis la ville en garde le week-end dernier dans un communiqué.
C'est le temps du recueillement et de l'apaisement qui doit prédominer. Je demande solennellement à la population de ne pas céder à une certaine forme de peur, voire de psychose qui pourrait prendre le dessus dans ces moments difficiles.
Pour l'heure, aucune communication à propos de cette nouvelle garde à vue pour préserver la sérénité et la confidentialité de l'enquête, a déclaré la procureure de Dunkerque.
Plus d'un mois après le lancement de l'opération PlaceNet XXL à Marseille, une forte présence policière est toujours présente dans le quartier de la Castellane, qui est d'ailleurs considéré comme l'un des plus lucratifs en termes de trafic de drogue. Alors 5 semaines après le début de cette opération, quel bilan peut-on en tirer ? Et quelle est la situation sur place? On va faire le point avec ce reportage de Viviane Herbier. Regardez.
Depuis le 18 mars, les forces de l'ordre sont omniprésentes ici à la Castellane, l'un des quartiers nord de Marseille les plus gangrénés par le trafic de drogue. Deux compagnies de CRS venues d'un peu partout en France se relaient. Jamais des unités n'avaient été mobilisées aussi longtemps dans un quartier. Appuyée par des effectifs de police, l'opération Place Nette XXL a bel et bien produit des effets visibles selon Pierre-Édouard Collex, préfet des Bouches-du-Rhône.
Le travail que l'on mène, il faut bien comprendre, c'est pas juste de l'occupation du terrain avec des policiers qui sont présents. C'est très important, ça rassure les habitants, ça fait fuir, ça étouffe le trafic et ça évite que ces trafiquants continuent à prospérer. Mais c'est un travail beaucoup plus complet que ça que nous menons. On tape à tous les niveaux du trafic. L'opération Place Nette XXL, c'est 49 individus qui sont sous les verrous.
Seul bémol, les trafiquants se sont déplacés dans les quartiers limitrophes. Et les habitants redoutent qu'une fois les forces de l'ordre parties, tout recommence comme avant.
Notre objectif, c'est que ces résultats soient durables. On a besoin d'obtenir et de montrer que l'État est capable de maintenir la paix publique dans ce quartier.
Le 8 mai, la flamme olympique arrive à Marseille, donnant le coup d'envoi d'une intense mobilisation des forces de l'ordre dans tout le pays. Et cette interrogation, l'opération Place Nette sera-t-elle encore une priorité ?
Le procès en appel de l'attentat de Nice s'est ouvert ce lundi matin devant la cour d'assises spéciale de Paris. En première instance, Mohamed Greyeb et Chokri Chafroud avaient été condamnés à 18 ans de réclusion criminelle. Il s'agit de deux proches de l'auteur de l'attentat au camion bélier qui avait fait 86 morts. C'était le 14 juillet 2016. On va faire le point sur cette toute première journée d'audience avec Noémie Schulz sur place.
La première journée a été consacrée à l'appel des témoins et des victimes. Elles sont plus de 2500 à s'être constituées partie civile, mais très peu avaient fait le déplacement à Paris pour l'ouverture des débats. Les associations qui les représentent évoquent les difficultés pour elles de se déplacer, payer un logement, dégager du temps puisque le verdict est attendu mi-juin. Des victimes qui seront toutefois à nouveau plus de 230 à venir raconter à la barre l'horreur de ce 14 juillet 2016 avec pour la première fois des enfants de moins de 13 ans attendu, soit ici à Paris, soit depuis Nice par visioconférence. Cela inquiète certaines associations qui estiment que ça n'est pas à leur place. En première instance, le président de la cour d'assises avait d'ailleurs refusé d'entendre ses victimes âgées de 4 ou 5 ans au moment des faits. Il avait donné la parole aux pédopsychiatres et aux parents, mais certaines familles ont insisté, ont dit que c'était important que ces très jeunes enfants soient entendus. Autre différence avec le premier procès, il n'y a que 2 accusés contre 8 en première instance, 2 proches du terroriste condamné l'un et l'autre à 18 ans de prison pour association de malfaiteurs terroristes. Mohamed Greyeb et Chokri Chafroud avaient clamé leur innocence tout au long des audiences, assurant n'avoir jamais rien su des projets terroristes de Mohamed Laouej Boulel. Ils avaient fait appel de leur condamnation et leurs avocats plaideront à nouveau l'acquittement.
Alors qu'attendent les victimes de ce nouveau procès? Écoutez Catherine Zwark, qui est avocate des parties civiles.
Ce qu'elles attendent des victimes, c'est comprendre. Comprendre une chose qu'elles ne comprendront pas. Parce que est-ce que c'est compréhensible que quelqu'un prenne le volant d'un camion et aille écraser tout le monde? C'est incompréhensible, c'est inimaginable et on ne peut pas, c'est imprévisible.
Et puis cette information importante pour les automobilistes, la fermeture de l'autoroute A13 entre Paris et Vaucresson, prolongée de plusieurs jours. Fermée depuis jeudi dernier, elle ne rouvrira pas avant le 30 avril si toutes les conditions sont réunies. C'est ce qu'a indiqué ce lundi la préfecture des Hauts-de-Seine. Cet axe majeur d'accès à la capitale a été fermé après la détection d'importantes fissures sur la chaussée. La journée de jeudi s'annonce très difficile pour ceux qui souhaitent prendre l'avion puisqu'une mobilisation record des contrôleurs aériens est attendue dans les aéroports. Les négociations pour éviter cette grève ont donc échoué. Le principal syndicat appelle à protester contre le projet de refonte du contrôle aérien. Jusqu'à 70% des vols pourraient être impactés dans certains aéroports français. À Nantes, un drapeau israélien a été peint sur les marches d'un grand escalier public de la ville. Situé juste au-dessus de celui de la Palestine, il est présent, lui, depuis plusieurs semaines. Et à l'origine de ce dessin que vous voyez à l'antenne, le collectif de lutte contre l'antisémitisme Nous Vivrons. Alors pourquoi avoir décidé de dessiner ce drapeau israélien? On va écouter ensemble la réponse de la présidente de ce collectif.
Si l'idée, c'était de rentrer dans une dynamique conflictuelle, on l'aurait recouvert, ce drapeau palestinien. Soit on l'aurait effacé, mais comme je vous le dis, ce n'est pas à nous d'essentialiser qui que ce soit et d'effacer les causes. Ou alors, on aurait recouvert le drapeau palestinien d'un drapeau israélien, le sionisme étant au cœur de nos engagements, mais absolument pas. Nous, on s'inscrit clairement dans une démarche de paix en Israël et de vivre ensemble en France. Et l'importation du conflit israélo-palestinien n'apporte jamais rien de bon, en l'occurrence plus 1000% d'actes antisémites entre le 7 octobre 2023 et le 31 décembre 2023.
Allez, on va prendre la direction des États-Unis. Dans ce journal, la situation est extrêmement tendue à l'université Columbia dans l'État de New York. Des étudiants juifs ont été victimes de propos antisémites et certains ont été priés de rester éloignés du campus. Les manifestations pro-palestiniennes se succèdent depuis mercredi dernier sur ce campus américain. On va faire le point sur la situation avec notre correspondante à New York, Elisabeth Guedel.
L'ambiance est très tendue sur le campus de la prestigieuse université new-yorkaise. Il y a quelques jours, la police était intervenue pour déloger des manifestants. Mais ce week-end, les manifestations pro-palestiniennes ont tourné au harcèlement. Des étudiants juifs ont été la cible de propos antisémites très virulents, au point que l'un des rabbins de l'université appelle les étudiants juifs de Columbia à rester chez eux, à ne pas revenir sur le campus tant que leur sécurité n'est pas assurée. Le maire de New York, Eric Adams, s'est dit horrifié et dégoûté par cet antisémitisme ambiant à Columbia. Même la Maison Blanche a réagi dans un communiqué qualifiant d'inadmissible et de dangereux les appels à la violence et les intimidations physiques visant les étudiants juifs. Du côté de la direction de Columbia, on affirme faire tout pour assurer la sécurité de tous les étudiants, y compris évidemment des 5000 étudiants juifs du campus. La présidente de l'université s'était engagée à le faire lors de son audition devant le Congrès la semaine dernière. Aujourd'hui, certains parlementaires parlent d'échec et appellent à sa démission.
Toujours aux États-Unis, après une semaine délicate avec la sélection des 12 jurés, les débats ont enfin commencé au procès pénal historique de Donald Trump à New York. Ce lundi, l'ancien président américain a été accusé de complot pour truquer l'élection présidentielle de 2016. Et de son côté, l'avocat de Donald Trump affirme que son client n'a commis aucune infraction. L'ancien président américain est jugé dans une affaire de paiement dissimulé visant à acheter le silence d'une ancienne star du X. Un procès qui intervient donc à quelques mois maintenant de l'élection présidentielle américaine. Et enfin, on va se quitter sur cette image. Le Bélème, qui est un voilier historique français qui transporte la flamme olympique, est arrivé ce lundi au port de Pirée, près d'Athènes. Jeudi, le célèbre trois-mâts tricolore prendra donc le large direction le port de Marseille, où il devrait arriver le 8 mai prochain. 150 000 personnes, dont Emmanuel Macron, sont attendues dans la cité phocéenne pour donc accueillir le voilier et la flamme olympique. Vous restez avec nous sur CNews, votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec du football et le 20e titre pour l'Inter Milan en Italie. Ce lundi, les interistes se sont imposés 2-1 dans le derby de la Madonna contre l'AC Milan. Marcus Thuram a inscrit le deuxième but pour les Nerazzurri, synonyme de Scudetto. L'Inter devient le deuxième club le plus titré de la botte derrière la Juventus. Et comme le veut la tradition, le club milanais va pouvoir accrocher une deuxième étoile sur son maillot noir et bleu. Et puis on va regarder ensemble la joie forcément des supporters de l'Inter Milan juste après cette victoire. Vous voyez, ils étaient très nombreux dans les rues de Milan avec un feu d'artifice et des drapeaux un peu partout, des fumigènes, on la voit. Et on la comprend d'ailleurs, cette joie des supporters de l'Inter Milan. On passe maintenant aux Jeux Olympiques de Paris et le tennis de table. Vous ne connaissez peut-être pas les frères Lebrun, mais ils risquent d'être les stars de ces Jeux Olympiques. Alexis et Félix sont de sérieux concurrents pour une médaille seule ou en équipe. Présentation de ces héroletés avec Mathilde Espinasse, regardez.
Les frères Lebrun n'étaient pas nés lors de la seule médaille olympique individuelle du tennis de table français, celle de Jean-Philippe Gassien en 1992. Alexis, 20 ans, Félix, 17, fils et petit-fils de pongistes, mais surtout tous les deux prétendants à une médaille olympique. Le duo a pris rendez-vous en août à Paris.
On y pense, moi c'est mon rêve depuis tout petit, mais c'est sûr que je pense que tout sportif y rêve. Et maintenant que je suis en bonne position pour y participer, forcément j'ai envie de bien performer là-bas.
On se tire pas mal vers le haut, on voyage beaucoup ensemble. Comme l'a dit Félix, on a la même équipe aussi autour de nous. Donc on passe plus de 250 jours par an dans les hôtels tous les deux. Donc on essaie de s'apporter pas mal de conseils, de se tirer la bourre parce que forcément on a tous les deux envie de se battre l'un et l'autre. L'objectif principal c'est d'arriver le plus haut possible tous les deux, donc ça reste une bonne concurrence.
Dans un sport largement dominé par la Chine, les Lebrun rêvent de prendre toute la lumière. Alors un combat fraternel pour les deux premières places au JO à Paris, personne ne leur reprochera d'y penser.
On rêverait de se jouer en finale, ça voudrait dire que nous deux on n'a pas perdu de mal jusqu'à là, qu'on a deux médailles olympiques. C'est le rêve ultime, on ne peut pas espérer mieux. Arriver au moment de la finale, oui, ça serait exceptionnel, ça serait parfait.
Et on termine ce journal des sports avec de la Formule 1 ce week-end au Grand Prix de Chine. Alpine a peut-être trouvé un début de solution à ses nouveaux problèmes. Même si Esteban Ocon et Pierre Gasly se placent 11e et 13e, eh bien de gros progrès ont été aperçus sur la monoplace. Le début d'un redressement pour l'écurie française. Réponse Théo Barbet.
Chez Alpine, enfin un début de semaine, sans grimace.
Je pense que ça a été plutôt un des week-ends les plus construits depuis le début de la saison.
Porté par un nouveau châssis et un nouveau fond plat, Esteban Ocon est venu mourir en Chine aux portes des points. Encourageant.
Ça aurait été vraiment une belle fin d'avoir ce point qu'on a cravaché pour avoir, clairement. Donc on échoue à 2 secondes des points et c'est notre meilleur résultat de l'année et il faut qu'on continue à progresser dans ce sens.
Au sortir de ce Grand Prix, si Gasly avait hâte d'expérimenter lui-même ses modifications sur sa monoplace, Ocon, lui, tempérait leur importance.
Les deux voitures ont fait un step en avant, clairement, comparé au reste du week-end. Je pense que le poids a joué, ça c'est sûr. Après, est-ce que la charge aérodynamique aussi a fait ce qu'on pensait? J'en suis pas sûr encore, il va falloir qu'on analyse bien.
Le plus dur quand on développe une voiture, quand on la fait évoluer, c'est justement de prendre les bonnes décisions et de ne pas essayer de trop se précipiter, d'aller trop vite, parce que c'est vraiment le moment où on se trompe. Et si on met un nouvel aileron en route, il faut qu'il marche à 100%. S'il ne marche pas, ça va être compliqué derrière.
À défaut de grand vertige, Alpine pourra se contenter de ce petit bonheur. L'écurie française n'est plus dernière au championnat constructeur.
Allez-vous rester bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. Une enquête pour tentative d'homicide volontaire a donc été ouverte après la blessure par balle de Kenji Girac. Son opération s'est bien passée et il est désormais sorti d'affaire, ont indiqué ses proches ce lundi soir. On vient donc sur cette information dans un instant dans notre prochain journal. Je vous souhaite une belle nuit, une très belle semaine également sur notre antenne. Et je vous dis donc à tout de suite sur CNews pour une nouvelle édition.
Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.